Eh bien, bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver en ce dimanche matin, ce dimanche 3 décembre. Alors, c'est le premier de l'Avent. Il nous reste encore 4 semaines avant de célébrer la naissance de notre Messie. Et alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de visiteurs, on en a vu quelques-uns, mais sachez qu'on est une église qui vous accueille. Et le mardi soir, d'ailleurs, on a une étude biblique tous les mardis à 20h. Et j'aimerais savoir parmi vous tous qui, en 2017, est venu à une étude biblique du mardi soir. Levez la main. Au moins une, ouais. Donc là, il y en a pas mal, ouais. Emmanuel, je te vois. Très, très bien. Et si je vous posais la question suivante, qui aimeriez-vous voir à l'étude biblique? Répondez pas tous, c'est vrai, ouais, tous. Ça serait bien qu'on y soit tous. Mais s'il y en a un que j'aimerais bien voir un jour, et qui vraiment... motiverait à tout le monde à venir, c'est bien Jésus-Christ. Et pourquoi je vous dis ça ? Je sais qu'il est présent parmi nous, bien sûr, par son esprit, mais imaginez à l'époque les études bibliques il y a 2000 ans, quand Jésus faisait lui-même une étude biblique. Et je vous montre un peu, alors c'est un passage qui se trouve en Luc 24, qui se situe après la résurrection, et donc sur le chemin d'Emmaüs. On a les disciples... donc des Juifs qui s'attendaient à ce que le Messie soit le serviteur glorieux. Donc ils disaient, mais il est où ce Messie qui est fort, qui devait apporter les armes, qui devait conquérir le monde, qui devait chasser les Romains? Et ce Jésus, il est mort, comment ça se fait? On avait tellement d'espoir en lui. Et Jésus leur apparaît et leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et donc, chose surprenante après, et vraiment qui pour nous sont très parlantes, le verset qui continue à dire « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Imaginez une étude biblique menée par Jésus qui sonde toutes les Écritures et qui montre tous ces passages christologiques, ces prophéties messianiques au travers de la Torah. Et bon nombre savaient déjà que j'œuvre parmi le peuple juif, ici à Antony, à Paris, en France en général. Et c'est vrai que beaucoup de personnes juives ont une attente messianique identique à ces premiers apôtres. Et beaucoup de peuples juifs, ici en 2017, s'attendent à un Messie glorieux. Un serviteur qui apportera une paix sur toute la terre. Alors, beaucoup pensent, dans les synagogues, il y en a une à 500 mètres d'ici, qu'il y aura peut-être des efforts humanistes qui permettront un jour d'arriver à une ère de paix. Mais ce n'est pas ce que la parole enseigne, ce n'est pas dans la Torah et ce n'est pas dans les prophètes. Un autre passage que Osnel a cité, l'entrée de Jésus à Jérusalem, donc un petit peu avant, en Jean 12. Et donc, c'est vrai que le peuple criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et on chantait même ce chant qui vient de Zacharie et cette prophétie messianique qui en est tirée. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Et alors, en tant que juif, et surtout en tant que juif chrétien, j'ai vu et étudié pendant plusieurs siècles ce que les juifs ont appelé ces messies qui sont venus. Il y en a à peu près une centaine qui est venue depuis 20 siècles, depuis Jésus. Alors Jésus, lui, était le vrai messie, bien sûr. Mais certains faux messies se sont amusés à faire la seule prophétie messianique qu'ils auraient pu faire, c'est celle-là. Donc on a eu des exemples de personnes juives un peu huluberlues qui sont montées à Sion, à Jérusalem, sur le dos d'un âne et qui se sont autoproclamées comme messies. Mais ce matin, et en guise d'introduction, j'aimerais vous montrer plusieurs autres passages. Alors vous voyez d'ailleurs, c'est les disciples eux-mêmes ne comprirent pas d'abord ces choses à l'époque de Jérusalem quand Jésus entra. Et lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Donc vous voyez, même les disciples il y a 2000 ans, vivant côte à côte avec Jésus pendant 3 ans, il y a beaucoup de passages bibliques ou de réalités historiques et messianiques qui leur passaient par-dessus la tête. Et nous, on a la chance, on a le recul, on a le Nouveau Testament. À l'époque, Jésus et tous les hommes juifs, et les Gaulois, les Grecs, les Romains qui l'entouraient, ils avaient que la Torah et les prophètes pour s'assurer que Jésus était bien celui qu'il prétendait être. Et la plupart des Juifs aujourd'hui, et même des musulmans et de beaucoup de monde en France, ont des fausses attentes par rapport à qui est le Messie. Et pendant ces 3-4 prochaines minutes, on va étudier qui est celui qui on fête. On fête son incarnation dans quelques jours, dans quelques semaines. On fête sa venue. Mais il y a beaucoup de pièces d'identité, et j'en ai en fait 300 et quelques, mais je ne vais pas vous les présenter tout de suite, qui constituent l'identité, la mission, la vie du Messie. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les livres historiques, les livres poétiques ou les livres prophétiques. On va voir comment Dieu parle avec des siècles en avance de qui est ce serviteur souffrant et ce serviteur glorieux. Et à chaque fois, on a les échos, les confirmations, les accomplissements qui sont présents dans les évangiles, les actes, les épîtres de Paul, les autres épîtres et l'Apocalypse. Donc, juste quelques titres et quelques caractéristiques flagrantes que malheureusement beaucoup de juifs, à peu près 98% des juifs, ne les savent pas ou en tout cas ne les reconnaissent pas. On sait que le Messie sera et a été un descendant d'Abraham, par qui toutes les nations seraient bénies. Et je vous invite d'ailleurs à venir la semaine prochaine, parce qu'il y aura une centaine de Nouveaux Testaments à votre disposition à donner à des personnes comme on a l'habitude de faire. Donc n'oubliez pas de venir la semaine prochaine, vous serez vous-même une bénédiction pour toutes ces personnes qui recevront la parole de Dieu grâce à vous. On est à la veille de Hanouka, donc ça commence le 13 décembre. On va en profiter pour bénir ceux qui sont autour de nous et de confession juive. Il serait un sacrifice volontaire. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse, et une confirmation en Jean et Actes, bien sûr. Celui à qui appartient le sceptre. Toutes ces diapositives, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les prendre. Il y aura une petite liste pour mettre votre email. Il sera l'agneau de la Pâque. L'agneau, comme en Égypte, dont le sang a été immolé, et le sang appliqué sur les linteaux des portes. Et pareil pour nous tous aujourd'hui, qu'on soit juif ou non juif, si on applique le sang de l'agneau innocent sur les linteaux de notre cœur, des portes de notre cœur, la mort éternelle passera et nous serons pour toujours avec lui. On l'avait vu à l'époque de Pessah, quand on a fait le repas de Pâques en avril dernier. Il sera élevé. Il sera l'étoile qui sortirait de Jacob. Un prophète comme Moïse, et même supérieur à Moïse. On le verra dans Hébreu. Notre parent rédempteur. Alors, en anglais, c'est Kingsman Redeemer, j'avais traduit pour mes amis Underwood, mais parent rédempteur, c'est ce qui... C'est Boaz dans Ruth, et c'est celui qui apporte la rédemption à la famille de Naomi et Ruth. Et bien le Messie, c'est un de ses titres, un de ses nombreux titres d'ailleurs. Il sera descendant de David, appelé le Fils de Dieu. Ça, les psaumes nous en parlent déjà. Il sera ressuscité, abandonné et percé, mais il sera trouvé juste aux yeux de Dieu. La parole de Dieu nous le dit aussi. Il sera le juste qui souffre. Plus grand que le roi David. Donc David qui allait avoir un héritier éternel. Comment ça se fait qu'un homme puisse avoir un héritier éternel? Un Messie souffrant et glorieux qui vienne d'Abraham, Isaac, Jacob, de la tribu de Juda, de la lignée du roi David, et qui soit né à Bethléem avant la destruction du temple en l'an 70. J'en connais pas 36. Il sera la pierre angulaire rejetée. Ce Messie dont on va célébrer bientôt la naissance. Il sera acclamé, la parole de Dieu nous dit. Il sera né d'une vierge, et là on s'approche plus des textes de Handel quand on chante Messiah, le Messie, à l'époque de Noël dans les rues. Il sera né d'une vierge, il sera la grande lumière, conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. C'est celui qu'on va célébrer pendant ces 4 prochains dimanches, le premier de l'Avent et tous les autres. Il sera un Nazaréen. Il fera vœu de service auprès du Père. Il sera auteur de signes de guérison. On voit de nombreux miracles, des signes et prodiges que Jésus exerce pendant son ministère. Il sera précédé d'un précurseur, Jean le baptiseur, lumière pour les nations du monde. Et ça, c'est sûr, on est plusieurs dizaines de nations représentées dans cette salle au bénéfice du Messie qui est venu pour chacun d'entre nous. Il sera bien sûr le serviteur souffrant, c'est un de ses titres le plus mis de côté par le monde juif actuellement. Ésaïe 53 est même un passage qui est complètement évacué. On passe de Ésaïe 52 à Ésaïe 54 dans les lectures annuelles à la synagogue. Pareil pour Psaume 22, pareil pour tous ces passages christologiques qui, à l'époque du Moyen-Âge, malheureusement, ont été éjectés par les synagogues à cause de ce que... certaines églises de cette époque faisaient comme pression et comme forcing auprès du peuple juif. Donc il y a des objections historiques et théologiques que les juifs ont aujourd'hui et qui ne devraient pas avoir lieu. Mais ces écritures sont là aussi pour qu'ils puissent reconnaître l'identité de ce serviteur souffrant. Le Messie ferait l'objet d'une intrigue meurtrière. Ça, c'est Jérémie qui nous en parle. Le Messie apporterait une nouvelle alliance. Ça, c'est très fort, une alliance supérieure à l'alliance mosaïque, la nouvelle alliance scellée par son sang. Le Messie serait appelé le Fils de l'homme. Il aurait une descendance humaine, mais aussi, bien sûr, une descendance divine. Le temps de sa première venue est précise. C'est vraiment l'époque que Daniel décrit et qui serait située avant, bien sûr, l'an 70, où le temple serait détruit, où les archives du temple seraient brûlées, où il n'y aurait aucune possibilité pour les Juifs de dire qui... d'entre nous vient de la tribu de Juda. C'était vraiment une force caractéristique de Jésus. Il serait appelé hors d'Égypte, il serait né à Bethléem Ephrata. Michée 5, 2 est tellement précis. Un faux messie, comme on en a eu depuis 20 siècles, n'a pas pu choisir comme ça son lieu de naissance. Et Dieu, dans sa souveraineté, lui a fait naître notre messie rédempteur dans cette ville même, cette toute petite ville. Il arrive chevauchant un ânon à Jérusalem, à Sion. Il sera trahi pour 30 pièces d'argent. Il sera percé. Et il y en a tellement d'autres. J'en ai beaucoup dans mes annexes, donc sentez-vous libre de venir après pour prendre ça. Mais voilà des prophéties messianiques qui, j'espère, vous motivent et vous solidifient dans votre foi par rapport à l'objet, la nature de notre foi et celui qu'on célèbre aujourd'hui. Et en guise d'introduction, on peut lire ensemble donc le texte qu'on a lu dès le début. Et ce message donc traite du sujet suivant, des serviteurs qui œuvrent, des gestionnaires qui veillent. Et je vous invite à tourner vos pages en Marc 13, versets 33 à 37. C'est le passage qu'aujourd'hui toutes les églises protestantes et évangéliques lisent à travers le monde. Donc on a un découpement très précis et j'ai décidé donc de baser ce message sur ce passage précis de Marc 13, versets 33 à 37. Lisons ensemble. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Il parle des temps de la fin. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alors, il est important pour chacun ici présent de comprendre le fait que le roi revient, que le Messie souffrant revient en tant que serviteur glorieux. C'est une des caractéristiques du Messie. Il est la même personne. Il n'est pas deux personnes séparées. Il est la même personne à deux âges différents. On l'a vu il y a 2000 ans en tant que serviteur souffrant. Il revient en tant que roi glorieux. Alors, pourquoi c'est important de s'attendre au retour du roi? Premièrement, et j'aime bien utiliser les panneaux blancs comme Simon le fait, parce que ça réveille la couleur blanche comme ça. Mais pourquoi est-ce important? Pour l'homme perdu, c'est un avertissement que vous devez être sauvé. Mais pour l'homme sauvé, c'est un avertissement que vous devez servir. Donc, quoi qu'il arrive, nous sommes appelés, comme ces serviteurs de cette maison, à être disposés dans nos cœurs à le servir. Okay ? 2000 ans nous séparent de ce discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Marc 13 se situe sur le mont des Oliviers, juste en face de la Porte Dorée à Jérusalem, pour toutes celles et ceux qui sont déjà allés en Israël. Et on retrouve ce discours qui porte sur la fin des temps et sur donc la seconde venue de Jésus en Marc 13, en Matthieu 24 et en Luc 21. Donc on a trois chapitres dans trois évangiles sur quatre qui nous parlent exactement de ce discours. Et nous sommes bien sûr plus proches aujourd'hui du retour du Seigneur que ce qu'on était hier. Bien sûr, ça va de soi. Et alors que Jésus conclut ce discours et finit de répondre à ses disciples, il leur donne une illustration très claire de ce que sera la vie à la fin des temps. Il parle d'un homme probablement riche, donc cet homme dans Marc 13, qui possède un grand domaine et qui va faire un voyage dans un pays lointain. Il donne certaines tâches et responsabilités à ses serviteurs et aux portiers. Il précise comment doivent se passer les choses en son absence. Il prévient également qu'il pourrait revenir à tout moment et qu'aucune personne de sa maison ne connaît ni le moment, ni l'heure, ni le jour. Et le passage juste avant, le verset 32, si ma mémoire est bonne, nous dit que seul le Père connaît cette heure fixe. Même le Fils, même les anges, même le Saint-Esprit ne connaissent pas l'heure fixée d'avance par Dieu pour déclencher ces choses des temps de la fin. Et en particulier ce retour où Jésus foulera de son pied le mont des Oliviers. Et beaucoup de passages parlent de cet événement. L'application pour nous dans ces versets est très claire. Jésus est monté aux cieux. Et avant de partir, il a promis qu'il reviendrait un jour. Il nous a aussi laissé son Saint-Esprit. C'est lui qui vit en nous aujourd'hui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous, l'Église, nous, ces pierres vivantes qui formons vraiment cette Église invisible. On a des bâtiments et tout, mais peu importe, si on n'avait pas de bâtiments, ce serait pareil. On est l'Église qui est habitée par le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé. Il nous a aussi laissé des instructions concernant ce que nous devrions faire jusqu'à son retour. Et là, on peut tourner en Actes chapitre 1, un passage bien connu, et je vais lire les versets déjà 7 à 9, affichés pour vous dans la nouvelle édition de Genève, Louis II. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Oui, nous ne sommes pas au courant de l'heure et de la date de sa seconde venue, mais nous savons que Jésus reviendra. Et la suite de ce passage, versets 10 et 11, est très puissante. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et de la même manière, on le reverra revenir ici sur le mont des Oliviers. Cela étant dit, bien aimé, je vous demande, travaillerez-vous jusqu'à ce que Jésus vienne ? C'est ma question à vous ce matin, et à moi-même. Travaillerons-nous jusqu'à ce que Jésus vienne ? En tant que serviteur, c'est le premier point, nous devons travailler, nous mettre à l'œuvre. C'est un des premiers enseignements de ce passage. Nous devons travailler, nous mettre à l'œuvre. Et le verset 34, à nouveau, qui dit ceci, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Alors, est-ce que ça veut dire que le portier a un job meilleur que les autres ? Il y a seulement lui qui doit veiller ? Non, non, ce n'est pas ça. Même les autres doivent faire pareil. Le maître de la maison donne un job à tout le monde. Et un des premiers points, qu'est-ce que ça implique ? Cela implique donc ce travail. Cela implique un appel. Le maître de la maison, dans cette histoire, appelle tous ses serviteurs ensemble et leur confie à tous des responsabilités spécifiques. Alors, il y en a peut-être un qui s'occupait du jardin, un qui s'occupait du bétail, j'imagine, un de la propreté du bâtiment. On avait plusieurs jobs à cette époque pour un maître de maison qui avait ses serviteurs. Bref, chacun avait un travail et peut-être était-il différents, mais ils travaillaient tous pour le même homme. Ils travaillaient tous ensemble pour atteindre l'objectif principal, honorer le maître et mener une vie qui lui plaise, faire que toute chose aille bien. Et c'est comme ça avec l'Église. Nous sommes tous différents, chacun de nous ici présents, mais nous avons différents talents, différents appels, nous devrions tous travailler ensemble pour faire plaisir à notre maître, comme ce passage. Amen. Et le passage de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 14 à 20, nous précise la beauté, la diversité de ce corps qu'est l'Église. Hommes et femmes, africains, européens, juifs, non-juifs, ouvriers, directeurs et tout. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était une ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. C'est la beauté de l'Église, de ce qu'on représente nous-mêmes. Vous n'avez pas été appelé par un simple mortel, vous n'avez même pas été appelé par Emmanuel ou Simon ou Jean, vous n'avez même pas été appelé par cette église ici à Antony, vous avez été appelé par le maître. Et vous êtes responsable envers le maître. C'est à lui un jour que vous et moi devrons rendre des comptes. Il nous a donné une tâche à accomplir et peut-être certains d'entre vous restent assis ou vivent au ralenti, malheureusement, pour certaines raisons, mais le maître nous a prévenu qu'il peut revenir à tout moment et vraiment être assuré qu'il y aura quand même des conséquences. Est-ce qu'on sera fidèle, obéissant jusqu'à son retour ? Certains d'entre nous ont été appelés à servir et on le fait avec fidélité et dévouement. On est tous appelés à être obéissants et fidèles dans le service du Seigneur d'ailleurs. Il y a une grande paix qui vient en sachant qu'on obéit à la direction du Seigneur. Et vraiment, nous sommes tous appelés à le servir. Deuxièmement, cela implique ce travail, cette mise en œuvre des ressources et des capacités. Et le passage évoque ça. Alors, la chose n'est pas couverte nommément dans les versets, mais on peut facilement déduire que les serviteurs, dans Marc 13, les serviteurs du grand maître avaient tous ce dont ils avaient besoin. Ils ont besoin de faire une tâche, ils ont les outils qu'il faut, ils ont besoin d'acheter du pain ou des fruits, ils ont l'argent nécessaire donné par le maître pour ces choses. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous réussissions seuls. En fait, on ne goûtera jamais au vrai succès si on fait chemin seul. Mais quand vous arrivez à ce lieu d'obéissance, de soumission complète, les choses que Jésus peut accomplir à travers nous sont illimitées. Et la première étape consiste simplement à devenir volontairement, vous et moi, des vases d'argile malléables et disponibles et volontaires face aux mains de l'Éternel. Rappelez-vous que le Seigneur n'appelle pas à lui les gens qui sont équipés ou qui se sentent équipés. Non, il va équiper celles et ceux qu'il appelle et il nous appelle. Donc ne vous dites pas « je ne me sens pas prêt » ou « il faut attendre que j'ai fini ma formation biblique » ou « à nos gens » ou « ceci, cela, et je suis trop jeune, j'ai 15 ans » et tout. Non, j'aime beaucoup l'exemple de Timothée Baraka que je connais depuis qu'il est tout petit et qui m'accompagne et qui est avec moi. Et on est tellement d'autres comme Timothée ou comme Eric ici présent qui se prépare aussi à accompagner les différents groupes. On est beaucoup dans cette église à aller au-devant, à la ligne de front, là où ce n'est pas forcément quelque chose toujours agréable à vivre, mais nous sommes beaucoup d'anciens et de jeunes à le faire, et gloire soit rendue au Seigneur. Et je partage souvent des anecdotes avec les ados, avec le groupe des ados, et je leur ai dit un jour cette histoire incroyable qui m'est arrivée. C'était il y a 11 ans, en 2006, à l'époque où j'avais déjà fini mon master et que je me préparais à partir aux USA pour faire mes études bibliques. Et donc en 2006, j'avais rendez-vous au début de l'année avec l'ambassade américaine. Et j'avais besoin de ce visa R1, ce visa de travailleur religieux. Et j'étais très stressé, je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver pendant ces 9 mois où j'allais étudier la Bible. Est-ce que j'allais, oui ou non, donner suite ? Est-ce que le ministère, la fine Messiah, allait m'engager ? Et j'étais assez stressé et je ne savais pas comment mon dossier serait reçu à l'ambassade. Alors je suis sorti de l'ambassade américaine à Paris. Et j'avais faim, donc je suis allé vers ce restaurant asiatique. Et 100 mètres avant que j'y aille, j'ai été interpellé par un homme au visage asiatique, et il m'a dit « Ah, monsieur, vous sortez de l'ambassade, comment ça s'est passé ?»« Ah, ben, je pense bien, monsieur, vous y allez aussi ?»« Ah non, 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 je n'y vais pas, mais parlez-moi plus, alors comment c'était, quel était votre ressenti et tout ça ?» Et donc, on a commencé à parler, et cet homme, bon, il m'a accompagné même pour manger, parce qu'il avait faim lui-même. Donc, on s'est assis à ce restaurant asiatique, et on a continué à parler. Et alors, c'est marrant, parce qu'il ne disait rien sur lui, il n'avait que des questions centrées sur moi, et centrées sur cet appel auquel je répondais. Pourquoi j'avais besoin de ce visa R1? Pourquoi je voulais être un missionnaire? Pourquoi j'avais besoin d'aller à Philadelphie pour étudier la Bible et principalement connaître le métier de missionnaire auprès du peuple juif? Et pendant une heure, on a parlé, et il était vraiment très avenant, avec beaucoup de compassion, très doux, et je n'arrivais pas vraiment à cerner pourquoi il était comme ça. Ensuite, il s'est levé, il est allé vers le fond de la salle, et j'imagine aux toilettes. Et j'ai attendu 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'y aille. J'ai quand même un RER à prendre. C'est le RERB. Ça rigole pas, le RERB, en cette période. Et donc, j'y suis allé. J'ai ouvert la porte et personne aux toilettes. Et je me dis, c'est bizarre, mais je suis assis à la porte d'entrée et je ne l'ai pas vu sortir. Et je suis au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'autre issue. Les toilettes aussi n'avaient pas de fenêtre. Alors je suis quand même un peu gêné, je me dis, bon, il est peut-être allé ailleurs, là. Alors je m'approche pour payer. Ah non, monsieur, tout était réglé. Alors je suis choqué, et je dis, mais comment? Ah, ben, quelqu'un m'a donné des espèces, et c'est bon, c'est réglé. Mais il est où? Ah, je ne sais pas. Ni lui, ni aucune personne du restaurant, ni moi-même n'avions vu l'homme partir. Il n'y avait qu'une seule entrée. Et cette histoire m'a toujours frappé, parce que je ne sais pas si c'est peut-être un ange qui m'a béni ce jour-là. Je ne connais zéro détail de cette personne. Mais il m'a béni et il m'a encouragé. Et c'est peut-être une des seules fois de ma vie où j'ai peut-être croisé une présence du Seigneur assez palpable et qui m'a vraiment retourné. Quelques mois plus tard, donc, je commençais mes études à Philadelphie. J'ai rencontré ma première petite amie à l'âge de 25 ans, qui est devenue ma fiancée et ma femme, Annalie, qui est là-bas. Et le Seigneur nous a bénis pour finir les études et pour même travailler ici. Ouais. Et Carole l'a vu, elle est derrière avec les enfants. Ouais. Et vraiment, le Seigneur équipe ceux qui l'appellent. Et cette histoire, pour moi, et peut-être que vous aussi, vous avez un appel très spécifique dans votre vie qui jalonne et qui vous rend ferme dans toutes ces prochaines années de votre vie au service du Seigneur. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui pensent encore que Dieu ne peut pas vous utiliser ou qui espèrent peut-être être un jour prêt ou même arriver à la perfection avant d'aller sur le terrain missionnaire qui d'ailleurs commence au paillasson de cette église. Hein. Le terrain missionnaire, c'est dès le paillasson. Hein. Dès qu'on rentre même dans le parking, on est déjà dans le terrain missionnaire. Alors il y en a peut-être qui pensent comme ça, et permettez-moi de partager quelques exemples bibliques avec vous de personnes qui peut-être étaient dans ce même état d'esprit. Alors accrochez-vous, j'espère que ce sera facile à lire, mais pensez à Noah, lui il était un ivrogne. Abraham, il se considérait peut-être trop vieux. Isaac était un rêveur. Jacob était un menteur. Joseph a été abusé physiquement, même quasiment sexuellement. Moïse avait un problème de bégaiement. Gédéon lui avait peur. Il était en train de faire son blé dans un endroit pour le vin. Il avait tellement peur des autres. Samson était un coureur de jupons. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David était un adultère, un meurtrier. Élie était suicidaire. Heureusement, des corbeaux ont été envoyés par Dieu, d'ailleurs. Jonas a couru loin de Dieu. Naomi était veuve. Job a fait faillite. Jean-Baptiste a mangé des insectes et il était un petit peu bizarre la manière dont il se comportait aussi. Pierre a nié le Messie. Les disciples s'endormirent en priant. Marthe, elle s'inquiétait de tout. La femme samaritaine, elle était divorcée et plus d'une fois. Le Seigneur a bien vu ça. Zachée était trop petit et mal aimé. Paul était trop religieux et il avait des excès de violence. Timothée avait un ulcère. Et même un autre, Lazare, il était mort. Mais Jésus l'a ressuscité, et on ne sait pas combien d'années Lazare a vécu après cela. Après, il a eu son autre mort, un peu plus définitive pendant quelques temps pour lui. Mais on sait que Lazare, grâce à lui, beaucoup de personnes juives sont venues au Seigneur, et même des Grecs, des Romains. D'ailleurs, le Sanhédrin voulait mettre fin à la vie de Lazare avant même de mettre fin à la vie de Jésus, tellement qu'il était un ambassadeur retentissant. Alors, mes amis, quelle est votre excuse ? Vous pouvez dire « Ah, je ne peux pas, je suis trop jeune » ou ceci, cela, mais à travers le Christ, vous pouvez. À travers le Seigneur, vous pouvez. Amen. Non seulement y a-t-il un appel du Seigneur dans nos vies, puis des ressources et des capacités qu'il nous donne, mais j'aimerais qu'on puisse considérer un autre aspect de notre travail en tant que serviteur. Un travail, et cela implique un commandement à suivre. Alors si on se souvient du verset 34, donc l'homme qui donne à chacun sa tâche. Le mot ici, serviteur, dans le grec original, ce mot se réfère à esclave. Et d'ailleurs, dans la version Darby d'Osnell, je crois que c'est même ce mot-là qui est utilisé, pas serviteur. Ouais. Et donc, le mot esclave en grec. Le sens du passage nous dit que ces hommes n'avaient pas le choix. Ils étaient esclaves du maître et on se devait d'obéir à son commandement. De même pour nous aujourd'hui, Jésus est notre maître et nous devons aussi obéir à son commandement. C'est vraiment un commandement d'être à l'œuvre, d'être au travail pour le Seigneur. Okay, dernier point pour ce premier point. Cela implique aussi de la consistance dans notre travail. Et là, rappelez-vous, versets 35 et 36, comment ça se passe ? Le maître s'attendait à ce que ses serviteurs soient consistants, cohérents et fidèles dans leur travail. Ces derniers ne pouvaient pas attendre, procrastiner, laisser tomber leur travail, puis se précipiter et pour tout terminer avant que le maître ne revienne, parce qu'ils ne savaient pas quand le maître allait revenir. C'est tout ça l'intérêt de l'imminence du retour de Christ. C'est que vu qu'on ne sait pas à quel moment on peut avoir une échéance, impossible de procrastiner ou de faire des calculs ici et là. Il y a des uluberlus qui essayent de faire des calculs de date et tout, mais à chaque fois on sait que c'est la déroute totale et que leurs disciples, malheureusement, tombent peut-être dans l'incrédulité ou la rébellion envers Dieu. Mais en juin dernier, Annalie, donc ma femme, et Liam, notre plus jeune fils, sont partis voir la famille aux USA. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en juin, j'étais un petit peu désespéré à cette époque. Et merci pour ceux qui m'ont apporté des pizzas, d'ailleurs. Alors, c'était une des rares occasions pour elle de voir ses parents, Annalie. Et c'est vrai que ses parents, si vous savez, ils sont missionnaires depuis 41 ans dans la jungle au Brésil. Et c'est assez rare qu'ils soient aux USA pour voir les deux frères et les deux sœurs d'Annalie. Donc, Annalie, elle en a profité pour aller les rejoindre là-bas. C'était moins cher comme ticket d'avion. Et Donc, elle m'a laissé avec Ethan et Noah pendant 10 jours. Donc, j'ai survécu, je suis encore vivant, hein, mais je devais continuer mon travail à Anthony pendant 10 jours où j'avais ces deux garnements, ces deux tornades avec moi. Je les aime beaucoup, mais vous aurez dû voir l'état de l'appartement. Alors, j'ai vécu en tant que nounou célibataire. Je n'ai rien ramassé, je n'ai même pas fait les lits, je n'ai pas sorti les poubelles. Je faisais beaucoup de pique-niques, de sandwichs au parc LR à côté de chez nous. Et avec les garçons, qu'est-ce qu'on mangeait ? On a peut-être mangé plusieurs dizaines de kilos de coquillettes et plusieurs pizzas surgelées. Et ça, ma femme a découvert les boîtes et j'ai pas eu le temps de me débarrasser des preuves. Mais de toute façon, Ethan et Noah m'ont grillé, ils avaient tout raconté. Ils ont tout dit. Mais jusqu'au dixième soir. Alors le dixième soir, je suis quand même rentré en mode panique. Alors alerte rouge. Le lendemain matin, je dois aller à Orly chercher Annalie. Et alors, j'ai réalisé que l'appartement était un champ de bataille. J'ai passé la majeure partie de la nuit à faire les lessives, à ranger, à tout et tout mettre en ordre, à faire semblant que j'avais les choses en main. Et avant qu'elle n'arrive le lendemain matin à Orly, et je la vois qui rigole au fond, mais c'est vrai, elle s'en souvient. Mais voyez-vous, bien-aimés, nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec succès de cette façon. Nous-mêmes, si on fait cette image par rapport à nous. Tout comme le révèle Jésus dans ses versets, personne ne connaît l'heure à laquelle le Messie revient. Si vous saviez que Jésus allait revenir genre vendredi soir qui vient, vendredi de cette semaine qui approche, à midi, que feriez-vous de différent dans votre vie ? Là, disons qu'il nous reste 5 jours et que vous saviez d'une certaine façon que Jésus revient. Souhaiteriez-vous tendre la main à cet être cher et enfin lui parler de Jésus ? Souhaiteriez-vous passer plus de temps dans la parole à préparer sa venue? Voudriez-vous vous abstenir de faire certaines choses que vous avez l'habitude de faire ou que vous avez planifié de faire cette semaine? Souhaiteriez-vous passer plus de temps dans la prière si vous restez que ces 5 jours? Pourriez-vous pardonner à cette personne contre qui vous avez gardé une amertume et une rancune depuis des mois, voire des années, dans votre famille, parmi vos amis? Participerez-vous à tous les cultes le dimanche et aux études bibliques avec Laurent chaque mardi soir? Est-ce que vous seriez au rendez-vous? Commenceriez-vous à faire les choses que vous n'avez pas faites pour le Seigneur et que vous avez, pour lesquelles vous avez procrastiné jusqu'à aujourd'hui? Diriez-vous aux gens que Jésus vient et qu'il vaut mieux qu'il soit prêt? Leur parlerez-vous des conséquences attachées au fait de passer une éternité sans lui? Est-ce que réellement vous leur en parleriez de ça cette semaine, s'il ne nous restait que 5 jours avant que Jésus revienne? Si c'est ce que vous feriez avec la connaissance du moment exact du retour du Seigneur, alors c'est ce que vous devez faire chaque jour. Je répète, si c'est ce que vous feriez avec la connaissance du moment exact du retour du Christ, alors c'est ce que vous devez faire chaque jour. Car Jésus a dit, aucun homme ne connaît l'heure. Et aussi, il a dit, aujourd'hui est le jour du salut. Ne pas remettre les choses à demain. Aujourd'hui même est le jour du salut. Martin Luther, dont on a célébré donc le 500 ans de la Réforme, et avec Nathalie et les autres monitrices et moniteurs de l'école du dimanche, on vous prépare un 16 décembre bien sympathique à ce sujet. Mais Martin Luther a résumé les choses ainsi en disant « Nous devrions vivre comme si le Christ était mort hier, comme s'il est ressuscité ce matin et comme s'il reviendra demain. Vivre comme s'il revenait demain. Planifier notre vie et même notre vie d'église, notre vie en tant que chrétien en France, comme peut-être s'il revenait dans 1000 ans, mais au moins vivre chaque jour individuellement comme s'il revenait demain. » C'est un appel du Seigneur. Mon exhortation pour vous tous ce matin, c'est la suivante, que dans nos vies, progressant dans la sanctification, chacune, chacun, nous puissions dire que si nous savions que Jésus revenait à minuit ce soir, nous n'aurions pas à changer une seule chose que nous avions prévu de faire aujourd'hui. Vraiment qu'on arrive dans cette maturité spirituelle où on soit déjà dans un état de faire les choses qu'on ferait si on savait déjà que Jésus allait revenir ce soir. Mais bien sûr, on ne peut pas le connaître. Et chers amis, en tant que serviteurs, nous devons travailler, nous mettre à l'œuvre, mais nous devons aussi faire une autre chose dans ce passage. Deuxième point, c'est mon dernier point. En tant que, alors, intendant, régisseur, gestionnaire ou administrateur, je les mets en équivalence, hein. Intendant, régisseur, gestionnaire, administrateur, nous devons veiller. Et 4 fois dans ces 5 versets qu'on a lus, 4 fois, donc, il est question de veiller. Ce mot veiller signifie littéralement rester éveillé. Nous ne sommes pas appelés à travailler pendant un moment, puis à veiller pendant un autre moment, puis à travailler, puis à veiller, puis à travailler, puis à veiller. Non, les serviteurs et même le portier, ils ont leur travail. Mais en même temps qu'ils produisent leur travail, ils sont dans un état de veille, un état d'attente, car ils connaissent l'imminence du retour du maître. Il faut que toute chose soit prête à tout moment. Il nous a confié la tâche de gérer ou d'être de bons intendants de tout ce qui est à notre disposition. Et donc voyons ensemble 3 choses que nous devons donner au Seigneur. Premièrement, nous devons donner notre temps au Seigneur. Écoutez ce que Éphésiens 5, versets 14 à 16 nous dit. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Alors ce court passage, ça vient d'Ésaïe 60 au verset 1, et ces trois lignes qui sont là, c'était un des premiers chants d'évangélisation de l'église d'Actes 2. Donc les premiers chrétiens, on a retrouvé des traces, chantaient déjà Ésaïe 60, et c'était peut-être pour eux le moyen de partager l'évangile aux païens qui étaient dans les ténèbres, et donc une manière puissante. Et la suite qui dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Nous devons tirer, mes amis, la leçon de ce passage, donc tirer le meilleur profit possible du temps dont nous disposons sur cette terre pour accomplir les projets de Dieu et saisir toute occasion pour adorer et servir utilement. Amen. Amen. Alors, il ne vous reste qu'un certain nombre de jours sur cette terre, et les utiliserez-vous à bon escient ou en abuserez-vous ? C'est ma question. Les utiliserez-vous à bon escient ou en abuserez-vous ? Alors, il y a quelques mois, le directeur de notre mission à Chicago, le directeur de Life in Messiah, a convoqué une réunion. Et en vidéoconférence, ils avaient donné à chacun d'entre nous, on était plusieurs sur la vidéoconférence avec nos petits écrans, là vous savez comment marche Skype, et ils nous avaient donné donc ce livre à lire, un livre sur la gestion du temps, justement. On nous a demandé de prendre un certain temps chaque jour et de lire le livre. Et deux semaines plus tard, on a donc reconvenu de faire une réunion. Et donc, à nouveau, on était les 10 petites images là, de chacun. Donc, moi, je suis le seul en France avec ma femme et mon père. Mais on a des collègues aux USA, en Israël, au Canada et dans 9 autres pays dans le monde. Et donc, on était une dizaine dans le leadership à lire ce passage, ce livre sur la gestion du temps. Et au début de la réunion, notre boss a dit à l'un de mes collègues, un peu trop silencieux derrière son écran, hein, on l'entendait qu'il mâchait des chips. Et genre, il n'était pas du tout dans la réunion. Et donc, mon boss lui a posé cette question. « Scott, qu'as-tu appris du livre que je vous ai donné sur la gestion du temps ?» Alors, Scott a fait une pause. Alors, c'était un peu bizarrement long, cette pause qu'a fait Scott. Puis, il s'est mis à dire « Eh bien, le livre sur la gestion du temps, il m'a appris à mieux gérer mon temps. » Et alors... il est devenu assez évident, après une discussion plus approfondie, que Scott n'avait pas bien géré son temps pour lire le livre sur la gestion du temps. C'est mon ami Scott. Et à quel point nous-mêmes savons-nous gérer notre temps ? Les heures de votre journée sont-elles dépensées selon votre bon plaisir ? Ou dépensées pour mener une vie plaisante aux yeux de notre Messie, de notre Maître ? Passez-vous votre temps sur des choses qui dureront pour l'éternité ? Êtes-vous en train d'amasser des trésors dans les cieux ? Amassez-vous de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ? Toutes ces œuvres bonnes qui traverseront le feu du jugement et qui traverseront le feu du test, seront-elles des œuvres de paille ? Seront-elles des œuvres de papier ? Ou seront-elles des œuvres d'or, de diamants, de pierres précieuses ? Est-ce que les choses qui consomment votre temps sont profitables pour le royaume du Messie ? Ou construisez-vous votre propre royaume ? Et si c'est le cas, si vous êtes en train de construire votre propre royaume, n'oubliez pas comment la Bible décrit. C'est comme construire un royaume de bois, de foin, de chaume sur une fondation de sable et tout s'écroule. Si vous êtes ici ce matin et que vous respirez encore, et j'espère que tout le monde respire, hein, je m'assure, c'est bon, on respire tous, ça va. Alors le Seigneur nous a donné... quelque chose, il nous a donné plusieurs choses, il nous a donné un jour de plus pour le servir, un jour de plus pour l'honorer, pour donner gloire à son nom, un jour de plus pour accomplir les tâches qu'il vous a appelé à accomplir, un jour de plus pour prier, pour étudier, pour adorer, un jour de plus pour partager l'évangile à quelqu'un qui est votre prochain. Et qui est notre prochain ? C'est toute personne qui est proche de nous, que ce soit ici à Anthony, que ce soit dans un aéroport, que ce soit... par téléphone, toute personne qui entrera dans notre vie en proximité physique ou virtuelle avec nous. Toutes ces personnes-là sont nos prochains. Et même celles dont on n'a pas envie qu'elles soient nos prochains, elles peuvent l'être, qu'on le veuille ou non. Okay ? Pour beaucoup d'entre nous, pourtant, nos problèmes spirituels de gestion du temps sont évidents sous bien des aspects. La priorité des choses auxquelles on s'attache, et le temps qu'on leur accorde chaque jour, sont en fait des révélateurs spirituels, quelque part. Et pardonnez-moi d'être concret, je vais vous donner certains exemples, mais cela peut être notre temps de lecture de la Bible, cette semaine, ce matin même. Ça peut être notre temps de présence à l'Église, mois après mois. Ou inversement, notre manque de service à cause d'autres choix qui s'offrent à nous. De faire ceci, de faire ce sport, de faire ce travail, de prendre ces heures qui ne conviennent pas à la vie de l'Église. Ça peut être des choses comme ça. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser, on peut aussi avoir des passions qui nous forcent à être des fois ailleurs, mais nous avons le temps de faire des heures sup pour acheter plus de cadeaux de Noël, par exemple. Nous avons un désir d'accroître notre train de vie, d'améliorer notre train de vie par différentes choses qui occupent du temps. Nous avons le temps d'aller nous promener en forêt, de faire du sport, et ces choses que j'évoque sont bonnes. On est beaucoup de sportifs ici dans l'église, et ce sont des bonnes choses d'être sportif. On peut en jouir de cela selon la grâce de Dieu. toutes ces choses. Par contre, il va falloir les prioriser. Les prioriser. Oui, vous savez, oui, voilà, c'est ça. Et nous avons le temps de prendre les transports pendant des heures pour aller voir un match du PSG, sauf qu'on y perd contre Strasbourg, comme hier soir. On a le temps de regarder 20 épisodes d'une série qui vient de sortir en à peine un week-end. Ça, on arrive à prendre le temps. Et pourtant, on n'arrive pas à faire 5 minutes plus tôt chaque matin pour lire un chapitre des évangiles ou des psaumes. Ça, je vois chez mes ados, avec Christine et Aude et Marie, on les pousse vraiment à la lecture quotidienne de la Bible, mais c'est pas facile, et on a eu leur âge aussi. Nous avons le temps de sortir avec des amis, et etc., etc. Vous voyez où j'en viens, mais malheureusement, trop souvent, nous n'avons pas assez de temps pour être fidèles dans notre service au Seigneur. Ça peut être triste, ça, mais nous sommes parfois trop fatigués, trop pris. Nous rendons nos emplois du temps inflexibles, et ça, c'est quelque chose dans nos sociétés occidentales. On n'a jamais le temps. Et c'est dur de prendre le temps ou de savoir dégager du temps pour les autres, pour aller visiter ceux qui sont à l'hôpital. Simon et Christine, c'est un très bon exemple pour moi. À chaque fois, je les vois, ils arrivent à gérer leur temps pour aller voir la famille malade, les gens qui sont malades de l'église. Et j'aimerais devenir comme cela également. Nous faisons des choix conscients qui nous poussent dans un activisme sans chercher un vrai temps pour nous ressourcer et réfléchir. Et des fois, nous rechignons à avoir une meilleure discipline de vie. Nous pensons ne pas être capables de dompter nos mauvaises habitudes. Et là, je ne suis pas en train de vous jeter la première pierre. Je suis aussi le premier à qui ça arrive. Okay, on est sous la grâce. J'évoque juste des difficultés. Je sais qu'ils sont réels pour moi et peut-être qu'ils sont réels pour certains ici présents. On est bénéficiaires de cette grâce. Et pourtant, je sais qu'il y a des points d'achoppement, même dans ma propre vie, qu'il faut que je règle avec le Seigneur. Et dans notre vie, on a beaucoup d'événements importants, que ce soit la naissance d'un enfant, chercher une voiture, acheter un appartement, toutes ces choses, ça prend du temps, et même des efforts. Mais est-ce que nous plaçons la même importance sur la venue de Jésus? Est-ce que être conscient du retour imminent de Jésus, ça nous pousse à saisir notre temps et notre gestion du temps différemment, ou est-ce que ça nous laisse complètement indifférents, comme le reste de nos collègues, des lycéens qui nous entourent, des étudiants, de nos amis, de nos voisins? Eux, ils sont indifférents, quelque part, à l'échéance qui leur pend au nez. Des fois, ils ne connaissent même pas cette échéance qui leur pend au nez. Nous, on la connaît. Aujourd'hui est le jour du salut. Qu'en est-il pour nos voisins, notre prochain? Écoutez bien, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, Jésus a dit qu'il revient. Jésus a dit pour nous de travailler et de veiller. Et nous serons tenus responsables de notre gestion du temps que Dieu nous a donné. Ne soyons pas disqualifiés, ne nous mettons pas en touche, ne nous mettons pas en retraite anticipée, mais continuons à travers toutes nos années à le servir. Donnez votre temps au Seigneur, c'est mon exhortation pour vous. Deuxième point, nous devons donner nos talents au Seigneur. Et plutôt, on a mentionné que le Seigneur nous appelle et nous équipe pour son service. Il a donné à chacun d'entre nous des capacités spéciales. On avait vu avec Simon et les anciens, même les dons naturels, vous vous souvenez, il y a quelques mois, les dons naturels, les dons spirituels. On a chacun ces dons. Et les fruits de l'esprit d'Éphésiens aussi, on les a, en plus des dons naturels. Vous pouvez être un bon chanteur, un bon professeur, un bon guerrier dans la prière. Vous pouvez être un encouragement, un très bon encouragement. Vous pouvez même être très doué pour un métier d'artisanat, électricien, plombier, et j'en passe. Mais à ces enfants, Dieu a donné beaucoup de talents et de capacités. Et que faites-vous avec les vôtres? Ce n'est même pas les nôtres, en fait, il nous les a confiés. Okay? Est-ce qu'on les utilise pour l'honorer? Et dernier point, nous devons honorer nos trésors. Nous devons donner nos trésors au Seigneur. Et je ne vais pas trop creuser profondément sur le sujet, on pourrait faire une prédication rien que sur ce sujet. Mais il nous a bénis avec une santé, comme Osnel le disait, avec une voiture, avec un petit déjeuner ce matin. Lundi, la plupart d'entre nous, on a un travail ou des études qui nous attendent. On va continuer, on a ces trésors que Dieu nous donne. Et ce que nous rendons des richesses que le Seigneur nous donne, peu importe le X% des dîmes ou des dons que vous faites pour son service, restons un administrateur fidèle avec tout le restant des 90% qui nous restent, ou peu importe, de ce qui nous reste de notre salaire. Soyons de bons administrateurs des trésors que nous donnons et avec lesquels nous poursuivons notre vie. Il y a quelques années, mon beau-père, donc le papa d'Annalie, excuse-moi de citer trois fois de suite Annalie, mais donc mon beau-père, il est allé acheter un bateau. Alors il faut savoir qu'il est sur la côte du Brésil, dans l'état de Bahia, près de Salvador de Bahia. Et donc c'est à la fois la jungle, mais c'est très proche de la côte. Et c'est d'ailleurs là où le Brésil a été découvert. Donc il y a pas mal de touristes et il y a pas mal d'Indiens qui sont là. Ils se déguisent en Indiens, ils font le folklore, les touristes les payent. Après, on voit des Indiens qui sont au téléphone portable et tout. Bon, peu importe, ça m'a toujours choqué, ça. Mais donc mon beau-père, il est allé emprunter de l'argent à sa banque, dans sa petite ville. Et il a ramené fièrement un bateau. Alors, il a été accueilli comme il le faut avec un rouleau de pâtisserie par ma belle-mère. Il est venu avec un bateau qu'il avait acheté, une embarcation pour 3-4 personnes. Et il s'était lui-même convaincu qu'il avait besoin de ce bateau. Mais en y repensant, il s'est rendu compte en fait, qu'il le méritait quelque part, ce bateau. Il en avait rêvé depuis tellement d'années. Il a emprunté l'argent à sa banque, il a ramené fièrement l'embarcation à la maison. Il a survécu au rouleau de pâtisserie de ma belle-mère et il s'est vite rendu compte qu'au bout de chaque mois, la banque lui téléphonait. La banque voulait savoir où en sont les traites. Et donc, il y avait cette pression. Et il s'est rendu compte qu'il était devenu esclave de cet organisme prêteur. Il s'est rendu compte aussi qu'il était en fait attaché matériellement à l'objet de ses rêves. Et c'était un objet qui n'était pas forcément nécessaire parce qu'il pouvait très bien pêcher ses poissons d'une autre manière. Et il s'est rendu compte que les fins de mois étaient difficiles et même que son ministère auprès des sourds-muets indiens en pâtissait et qu'il n'avait pas autant de budget pour eux qu'il n'en avait avant. Et gêné par la dette, il a alors pris la sage décision de vendre son bateau et Dieu l'a béni avec la paix de l'esprit qui vient quand on est libre de tout obstacle pour servir le Seigneur. Et c'était une bonne chose pour lui. Donc un exemple, une illustration qui nous prouve et qui nous montre là où on met notre cœur, c'est important. Ne pas le mettre dans les richesses du monde, mais vraiment placer notre cœur dans le Seigneur. Et en guise de conclusion, cette question, êtes-vous des gestionnaires fidèles de votre temps, de vos talents, de vos trésors ? Sommes-nous des gestionnaires fidèles ? En tant que serviteur, êtes-vous à l'œuvre ? En tant qu'administrateur, êtes-vous en train de veiller ? Le Maître, le Messie, pourrait revenir à tout moment. Assurez-vous que vous êtes prêt pour son arrivée. Lors d'un voyage en Europe, un touriste a visité une belle propriété en Italie. C'est extrait d'un livre qui s'appelle « Où est ton trésor ?» Si vous l'avez dans votre bibliothèque, demandez à Nadia sinon. « Où est ton trésor ?» de Gaiter Bailey. Donc c'est l'histoire d'un touriste qui faisait un voyage en Europe et il était en Italie. Il admirait un très beau jardin pittoresque quand il fit la rencontre du jardinier des lieux. Il dit « Ah, vous avez fait un beau travail. Depuis combien de temps travaillez-vous ici, monsieur le jardinier ?»«
25 ans !»
Je fais une voix italienne un petit peu. « Combien de fois le propriétaire a-t-il été dans cette propriété, monsieur ?»
Juste 4 fois.
4 fois ? Mais monsieur, quand c'est qu'il est venu la dernière fois ?
Il est venu il y a 12 ans.
Il y a 12 ans ? Vous gardez le jardin si beau, on aurait presque l'impression que vous attendez le propriétaire demain.
Aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui.
Et cette illustration dans ce livre, Où est ton trésor ? Est très parlante. Nous-mêmes aussi. Vraiment, que l'imminence du retour du Seigneur soit pour nous une réalité biblique. Que le Seigneur ne nous trouve pas endormis ou spirituellement négligents. Une telle vigilance est la responsabilité de chaque croyant, de chaque génération, durant cet âge présent. Et un jour, que ce soit que vous finissiez votre course, que vous vous endormiez en Christ, ou alors que ce soit parce que l'Église du Seigneur se fait enlever, vraiment, que nous puissions nous tenir sans honte devant Jésus. Et assis sur son grand trône blanc, Jésus, le Messie glorieux, qu'on a vu tout à l'heure avec les prophéties messianiques, on sait qu'il est le Messie glorieux. Il sera aussi notre maître et on le verra enfin face à face. Heureux celui et celle qui croit sans avoir vu, Ça va à l'inverse du monde. Le monde dit « Ah, moi, je vois, je crois que ce que je vois. » Mais nous, en tant que disciples du Seigneur, nous, on croit sans même avoir vu l'objet de notre foi, le Seigneur. Et un jour, notre foi sera transformée en vision parce qu'il sera face à face avec nous. On sera là à ses pieds en tant que serviteur et vous rendrez des comptes de votre intendance, de votre gestion. Aimeriez-vous entendre votre maître vous dire ces mots ? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Merci.